comment la vie est-elle apparue sur Terre?
On peut envoyer actuellement des signaux à 100 millions de kilomètres.
Les scientifiques repoussent encore les limites du possible.
Il n'y a rien qui soit pérenne dans le temps. Tout est d'ordre chaotique, mais ça peut être des chaos sur des échelles de temps de l'année, du million d'années, du milliard d'années. Ce qui compte, c'est le temps qu'il faut pour que les choses dérivent.
Tout ce qu'ils veulent, c'est faire des chiffres. Ils n'ont rien à foutre qu'on détruise le fond des océans.
So, I had an idea.
Le siècle des ampoules.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Siècle des Ampoules, une émission pour laquelle nous avons la chance d'être en compagnie de Jean-François Guiglione. Jean-François Guiglione, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation.
Bonjour.
Jean-François Guiglione, vous êtes directeur de recherche CNRS en écotoxicologie microbienne marine au laboratoire d'océanographie microbienne de Bagnoul-sur-Mer et vous participez à l'exploration bleue dont il sera question au cours de cette émission. Est-ce que vous pouvez, Jean-François Guiglione, dans un premier temps, nous expliquer en quoi consiste ce projet et comment en est née l'idée ?
Alors le programme Exploration Bleue, en fait, il fait suite à une série d'expéditions scientifiques sur le bateau Expédition 7e Continent, qui nous permet d'aller sur le terrain pour nous rendre compte de l'évolution de la pollution plastique et de répondre à des questions vraiment spécifiques. Donc ce programme, il est soutenu par le groupe Cresc, qui signe l'engagement de plusieurs marques de la cosmétique pour comprendre et combattre cette pollution marine. Et donc le projet a émergé en fait après différentes expéditions qu'on a pu mener avec ce bateau 7e continent.
Alors on le comprend, c'est un véritable laboratoire flottant et le but de cette expédition scientifique est donc de mieux comprendre l'impact de la pollution plastique et des perturbateurs endocriniens associés sur la biodiversité marine. Et finalement, que sait-on au juste jusqu'ici de cet impact ?
Alors on sait que maintenant c'est clairement démontré, et ça fait plusieurs années que les scientifiques travaillent sur cette question de la pollution plastique. En fait, il faut comprendre que les plastiques, ils sont composés d'un polymère. Tout le monde connaît le polystyrène, polyéthylène, polypropylène. Ça, c'est un des composants du plastique. Le deuxième composant du plastique, c'est les additifs qu'on va mettre à l'intérieur, qui sont d'autant de produits chimiques qui donnent ces caractéristiques au plastique. Et à l'intérieur, on va mettre donc des produits chimiques qui sont des plastifiants, des stabilisants, des retardateurs de flamme, des colorants, tout un panel de produits chimiques. Aujourd'hui, on dénombre plus de 13 000 molécules chimiques dans les produits plastiques commercialisés, dont 3000 sont connus déjà pour être toxiques et seulement 4% sont régulés au niveau mondial. Donc la toxicité du plastique, elle vient essentiellement de ces additifs qui sont autant de produits chimiques qui vont se détacher du plastique pour entrer dans les organismes. Et en fait, on ne sait pas grand-chose sur les effets combinés de ces molécules. On sait en fait que ça va avoir des effets sur la croissance des animaux, etc. Mais ça dépend vraiment de types de molécules qu'on va étudier. Donc c'est tout le projet en fait ici, c'est de se retrouver avec des plastiques complexes, avec plein de molécules à l'intérieur et de voir les effets que ça va avoir.
Et vous allez donc traquer en quelque sorte ces plastiques complexes dans les océans et mers du monde. Peut-être depuis quand est-ce que la communauté scientifique s'inquiète de cette pollution plastique présente dans les océans ?
Alors ça fait un bout de temps en fait qu'on est au courant de cette pollution plastique. Ce qui a été le plus médiatisé, c'est l'expédition de Charles Moore en 1997. Et on va dire que la science a vraiment commencé à travailler sur les plastiques à partir de 2010. Donc il a fallu une dizaine d'années avant qu'on ait suffisamment de financement et d'intérêt pour travailler. Donc c'est une science qui est assez récente. Et le bateau Expédition 7e Continent, ça a été un des premiers aussi à montrer en fait qu'il y avait cette pollution plastique et qu'il fallait absolument commencer à travailler dessus parce que on se retrouve à des kilomètres et des kilomètres des côtes et on a des concentrations de plastique qui sont complètement énormes. Donc on en trouve partout dans tous les océans.
Alors il y a cette concentration de plastique visible, de macroplastique, mais aussi ce qu'on appelle les microplastiques. Finalement, de quoi est-ce qu'on parle lorsqu'on parle de microplastiques et comment est-ce qu'ils se forment ?
Alors, les microplastiques, c'est tous les plastiques qui sont inférieurs à 5 mm. Qu'est-ce que c'est que ces plastiques ? En fait, ils viennent de la fragmentation des gros plastiques. C'est-à-dire que les plastiques, quand ils vont arriver dans l'environnement, ils vont être soumis aux ultraviolets, ils vont être soumis à l'abrasion. Une bouteille en plastique, on peut imaginer qu'elle va frotter un peu partout, elle va se casser en morceaux. Et ce qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est que ça va assez vite, dans une dizaine d'années, en fait, une bouteille en plastique va se casser en morceaux, va se fragmenter, et ensuite elle va rester sous forme de microplastiques, ces plastiques qui font moins de 5 mm, donc la taille d'un grain de riz à peu près, et qui vont malheureusement être retrouvés dans tous les maillons de la chaîne alimentaire ensuite. On en trouve des plus petits organismes, du zooplancton jusqu'aux baleines, on peut en trouver un peu partout, et c'est souvent sous forme de microplastiques qu'on va les retrouver, et ces microplastiques, en nombre, c'est ceux qui représentent 97% des plastiques qu'on va retrouver dans l'environnement. Donc c'est une pollution qui est presque invisible. Nous, ce qu'on voit, c'est le visible, hein, les gros déchets. La plupart du temps, en fait, ces plastiques, ils sont sous forme invisible et c'est eux qui vont toucher, en fait, toute la chaîne alimentaire.
Et on a une idée des quantités des microplastiques présentes ou alors c'est quelque chose qui est très dur à évaluer ?
Non, on arrive à évaluer. En fait, on considère qu'on a à peu près 30 000 tonnes de microplastiques à la surface des océans. Et puis, on se rend compte, et c'est aussi l'objectif de cette expédition, c'est que la fragmentation, elle va pas s'arrêter à ces microplastiques, elle va aller encore plus petit vers ce qu'on appelle les nanoplastiques. Les microplastiques, je vous ai dit, c'est inférieur à 5 mm. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être inférieur à 1 micromètre. Et ça, c'est les nanoparticules. Ces nanoplastiques, en fait, ils sont pas très bien connus, mais on a la chance de travailler avec l'équipe de recherche de Toulouse, qui est vraiment spécialisée dans ce domaine-là, et qui a pu montrer, en fait, que ces nanoplastiques, en nombre, ils étaient 1000 fois plus importants que les microplastiques, et en masse, ils étaient à peu près équivalents. Donc ça veut dire que c'est plutôt là-dessus qu'il faudrait travailler aujourd'hui, parce que ces nanoplastiques, malheureusement, ils sont pires que les microplastiques, ils vont aller s'insérer un peu partout, dans toutes les cellules, dans tous les organes. Et c'est eux qui vont transporter les additifs chimiques des plastiques vers les cellules et les organes.
Et est-ce qu'on sait d'où est-ce qu'ils proviennent ? Parce qu'ils se retrouvent pas dans la mer juste comme ça. Est-ce qu'on a une bonne idée finalement du cycle, en gros, entre guillemets, hein, du plastique ?
Le cycle du plastique, il est assez complexe. On commence à mieux le comprendre. Ce qu'on sait de manière sûre, c'est que la majorité des plastiques, ils viennent du continent, ils viennent de nous, ils viennent de la Terre. Il y a très peu de plastiques finalement qui sont directement rejetés dans les océans. On considère qu'on a 500 000 tonnes de plastique qui arrive chaque année dans les océans, c'est l'équivalent d'un camion benne toutes les 10 minutes. Donc vous imaginez en fait la quantité de plastique qu'on est en train de rejeter dans les océans toutes les 10 minutes, c'est à peu près un camion benne dans le monde entier. Hein. Donc tout ça en fait, l'océan malheureusement n'arrivera pas à faire face à tous ces déchets. C'est impossible pour les micro-organismes par exemple qui sont les seuls capables de dégrader ces plastiques, de manger tous ces plastiques qui arrivent dans les océans, et c'est pour ça qu'on a une accumulation de plastique qui fait qu'aujourd'hui on est à des concentrations qui sont vraiment dramatiques. Il y a certains articles qui considèrent qu'on a un tiers de plastique aujourd'hui par rapport à la masse de poissons qui sont dans les océans, avec des prédictions en 2050 qui seraient autant de plastique que de poissons en masse dans les océans. Vous vous rendez compte que c'est vraiment catastrophique maintenant.
Alors en préparant cette émission, j'ai pu dire que la mer Méditerranée serait la mer la plus polluée au monde hein, par ces microplastiques. C'est quelque chose que vous confirmez et que vous avez pu aussi constater hein, par vous-même, car vous êtes parti déjà de nombreuses reprises hein, sur ces bateaux scientifiques pour mener des études.
Alors les plastiques, il faut bien comprendre qu'on va les retrouver un peu partout. On a entendu, certains d'entre vous certainement, la question du GIR du Pacifique Nord, qui est qui est abusivement appelé le septième continent. Pourquoi on l'appelle le septième continent ? C'est parce qu'on a une concentration de plastique à cet endroit qui fait à peu près 6 à 7 fois la France. Donc vous imaginez toute la surface en fait. Alors on a des patchs, hein, des zones qui sont plus concentrées, moins concentrées, mais globalement sur cet espace, on a des concentrations de plastique qui sont énormes. Et ça c'est dû au fait qu'on a une sorte de tourbillon. Avant on avait des bouts de bois qui flottaient à ces endroits-là. Maintenant en fait on a du plastique. Ces gyres océaniques, c'est des zones de concentration, mais on a pu vous montrer en fait que les plastiques sont partout, de la surface au fond des océans, jusqu'à la fosse des Mariannes, qui est l'endroit le plus profond de notre planète, on retrouve du plastique. Et l'objectif, par exemple, de cette exploration bleue, ça a été de traverser plusieurs zones de concentration. Alors, je vous ai parlé juste maintenant du GIR du Pacifique Nord. Il y a 5 GIR dans les océans, le Pacifique Nord, Pacifique Sud, Atlantique Nord, Atlantique Sud et l'océan Indien. Et là, avec le bateau expédition 7e continent, il a navigué très récemment, pendant plusieurs semaines, pour traverser le GIR de l'Atlantique Sud, donc qui est ce un autre tourbillon océanique qui agit aussi comme une zone d'accumulation des déchets en mer, ils ont retrouvé des concentrations de plastique sur plusieurs kilomètres qui ressemblent vraiment à une soupe de plastique, en fait, voilà, à la surface. Ensuite, le bateau, il est arrivé en Méditerranée, et comme vous le disiez, en fait, c'est la zone la plus polluée au monde en quantité de microplastique. C'est juste devant chez nous. Donc, pourquoi, en fait, on a cette accumulation en Méditerranée? C'est parce que la mer Méditerranée, c'est une mer qui est presque fermée, et entre le moment où l'eau rentre en Méditerranée et l'eau sort de la Méditerranée, ça va durer à peu près 90 ans. 90 ans pendant lesquels, en fait, les plastiques ont largement le temps de rester en Méditerranée par la pollution méditerranéenne et atlantique et s'accumuler, en fait, dans cette mer. Donc aujourd'hui, devant chez nous, en fait, en Méditerranée, on a la mer la plus polluée du monde en microplastique.
Alors cette exploration bleue, elle a vocation encore à naviguer, hein, jusqu'en 2025. Finalement, comment est-ce que vous choisissez aussi les zones géographiques sur lesquelles vous allez travailler?
Alors, là, en fait, ce qu'on a choisi, c'est d'aller dans les zones les plus polluées en microplastique parce qu'on avait besoin de beaucoup de matériel, en fait. On a différents objectifs. Le premier objectif dont on a parlé, c'est de travailler sur ces additifs des plastiques. On a besoin, en fait, d'avoir beaucoup de plastique et de récupérer plein de ces microplastiques pour pouvoir déterminer qu'est-ce qu'on a comme formule chimique à l'intérieur. Donc, on entend beaucoup parler des bisphénols A, vous savez, qui ont été interdits dans les biberons, des phtalates, des perfluorés, des PCB, des métaux lourds. Tout ça, en fait, on va chercher, et on a la chance, en fait, d'avoir nos collaborateurs du laboratoire IMRCP de Toulouse, en fait, qui ont des technologies de pointe, des spectrométries de masse en tandem avec haute résolution, qui nous permettent de retrouver, en fait, quels sont les additifs qui sont dans ces plastiques. Une fois qu'on a déterminé, en fait, ces additifs, et c'est vraiment novateur, parce que dans l'environnement, il y a très peu d'études, en fait, qui permettent de caractériser tout ça. On va évaluer aussi leur toxicité, c'est-à-dire qu'on va récupérer tous ces microplastiques qu'on a récupérés en Méditerranée ou dans le gyre de l'Atlantique Sud, et on va voir à quel point ils vont perturber la vie des organismes. Donc on travaille sur des bactéries, on travaille sur des larves d'oursins, de moules, pour voir si on a si tous ces additifs, quand ils sont combinés, ils vont provoquer, en fait, des malformations des embryons au tout début du développement des organismes, du stress, de la génotoxicité, c'est-à-dire qu'on va avoir des mutations qui vont se créer. En fait, on a pu déterminer par avant l'impact de chacun des additifs. On sait que le bisphénol A, il a des effets comme perturbateur endocrinien, donc ça va réguler la croissance, le développement, la sexualité, etc. Mais on ne sait pas l'effet combiné, et ça va être vraiment l'objectif de ce travail.
Et justement, est-ce que vous pouvez nous parler de comment ce laboratoire flottant fera, hein, finalement pour récolter ces déchets plastiques? De quels outils est-il équipé?
Alors, le bateau Expédition 7e Continent, il fait un peu plus de 30 mètres, et on a construit un laboratoire vraiment flottant à l'intérieur, où on a miniaturisé un maximum tout ce qu'on pouvait mettre dans le bateau. Donc, si vous aviez la chance de voir ce bateau, en fait, c'est un gros bazar à l'intérieur du laboratoire, où on a essayé de mettre plein de machines différentes. Globalement, au départ, en fait, le début de l'expérience, on fait ça 2 à 3 fois dans la journée. On va tôt le matin, en fait, on va mettre un filet à l'eau. Donc c'est un filet comme un filet de pêche, mais avec des toutes petites mailles. On est à 300 microns, un demi centimètre. Et ça, on met ça derrière le bateau, on le laisse traîner pendant 1 heure, et ensuite on va ça permet de concentrer plusieurs centaines de mètres cubes, et on va récolter, en fait, tout ce qu'il y a qui est passé dans cette gros entonnoir dans un collecteur qui nous permet de récupérer les plastiques. Voilà. Donc ensuite, on récupère ce collecteur, on l'amène au laboratoire, et ensuite on va trier à la main un par un, en fait, les microplastiques pour pouvoir les caractériser, qu'on va conditionner et ensuite envoyer au laboratoire. Ça, c'est la première chose sur les grands, sur les microplastiques. D'accord, tous ceux qui sont la taille d'un grain de riz et qu'on arrive à voir à l'œil. Ceux qu'on n'arrive pas à voir à l'œil, les petits microplastiques et les nanoparticules, celles-ci, elles sont échantillonnées avec des bouteilles qu'on va mettre à l'eau. Donc, c'est des bouteilles spéciales qu'on peut fermer à différentes profondeurs, qui nous permettent de déterminer, en fait, la concentration de ces nanoplastiques et de ces petits microplastiques dans toute la colonne d'eau. Voilà. Donc, ça, c'est essentiellement ce qu'on fait à bord. On a quelques expériences qu'on fait à bord, mais la majorité des choses, en fait, c'est conservé à bord. Et ensuite, dès qu'on débarque du bateau, on envoie ça dans nos laboratoires pour aller plus vers la haute technologie qu'on a dans nos labos.
Vous parliez de colonne d'eau. Peut-être vous pouvez nous expliquer sur jusqu'à quelle profondeur vous allez. Est-ce que vous avez mentionné aussi qu'on retrouve ces plastiques aussi dans les fonds marins? Jusqu'où vous allez pour étudier cela?
Alors sur le bateau Expédition 7e continent, il n'est pas équipé pour aller travailler dans les abysses, c'est-à-dire dans les grandes profondeurs. Nous, on va s'intéresser à ce qui se passe beaucoup à la surface. Donc les microplastiques, ceux qui font la taille d'un grain de riz, la plupart du temps, ils flottent. Donc c'est ceux-là qu'on va retrouver en surface. Et c'est la plupart des études scientifiques, pour l'instant, elles se sont concentrées sur ces microplastiques qui étaient plus faciles à travailler. Maintenant, quand on va avec au niveau des petits microplastiques et des nanoplastiques, ceux-là, on va les trouver dans la colonne d'eau. Alors, qu'est-ce que c'est que cette colonne d'eau? C'est toute l'eau, en fait, qui est entre la surface et le sédiment, le fond. Et nous, on travaille sur les 100 premiers mètres. Les 100 premiers mètres, c'est la zone où il y a le plus de biologie. C'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup à ça. Il y a beaucoup d'activités biologiques à ces endroits-là. Et on veut savoir à quel point ces petits microplastiques et ces nanoparticules affectent la vie dans la partie supérieure de l'océan, dans les 100 premiers mètres.
Et est-ce qu'on sait ce qui se passe justement lorsque ces plastiques et microplastiques vont jusqu'à ce fond sédimentaire? Est-ce que il n'y a plus rien qui se passe? Ils ne sont plus décomposés? Il n'y a plus d'activité biologique ou au contraire?
Alors, on pense des fois effectivement enfin, on le voit comme ça quand on pense le fond des océans, c'est un peu l'endroit où tout va se fossiliser et finalement devenir du pétrole. Hein. En fait, c'est pas comme ça. La réalité, c'est que le fond des océans, c'est très riche. Il y a beaucoup de vie en fait dans les fonds des océans. Alors pendant cette expédition exploration bleue, on va pas explorer les abysses, on va pas explorer les sédiments, mais en fait d'autres équipes travaillent dessus parce qu'il y a effectivement beaucoup de plastique qui vont aller dans le fond des océans. On a pu observer avec des travaux de l'IFREMER qui amènent des sous-marins hein, dans le fond des océans, qu'on a vraiment des décharges sous-marines avec des gros déchets en fait qui vont être plongés dans le fond des océans. Et là, en fait, ça va affecter toute cette faune marine dont on sait qu'elle est particulièrement fragile parce qu'elle a beaucoup moins de substances, beaucoup moins de nourriture pour se développer. Et le fait que cette faune marine soit perturbée, ça, c'est vraiment inquiétant aussi.
Nous sommes de retour avec Jean-François Guiguillon. Monsieur Guiguillon, finalement, quel est l'avantage d'étudier ces microplastiques in situ, comme vous allez le faire avec cette expédition bleue? Est-ce qu'ils ont des comportements différents de ceux que l'on pourrait observer en les étudiant uniquement en laboratoire?
C'est exactement ça qu'on essaie de faire. Comme je vous disais, en fait, ça fait une quinzaine d'années, une vingtaine d'années maximum que les scientifiques ont travaillé sur cette question des plastiques. Et évidemment, on commence par le plus simple pour aller vers le plus compliqué. Donc, on a travaillé sur des plastiques qui étaient neufs. Et on s'est rendu compte que on n'arrivait pas bien à simuler ce qui se passait vraiment dans l'environnement. Et on peut, par exemple, mettre des ultraviolets au laboratoire, augmenter la température, faire de l'abrasion artificielle. Et on s'est rendu compte qu'on arrivait mal à rendre compte de la complexité de l'environnement. Parce qu'en fait, les plastiques, ils vont arriver de partout. Si vous jetez négligemment un sac plastique en montagne, il va petit à petit arriver dans une rivière avec le vent, se casser en morceaux, arriver dans un fleuve, puis ensuite arriver en mer. Il a tout un passif qui fait qu'on n'arrive pas à reproduire ça en laboratoire. Donc c'est pour ça que pendant l'exploration bleue, on va dans ces zones de concentration de plastique pour en récolter énormément et pour pouvoir vraiment faire un état des lieux de la complexité des plastiques eux-mêmes, en fait, parce qu'on a une très très grande diversité de plastiques, et si on veut comprendre leur effet, il faut qu'on travaille avec cette grande diversité. Et maintenant, on a les outils pour le faire.
Et on sait, parce que vous parliez aussi des additifs toxiques, on sait lesquels sont justement les plus toxiques, ceux qu'on retrouve le plus.
Alors c'est aussi l'objet de cette expédition. Ce qu'on connaît en fait beaucoup, c'est les perturbateurs endocriniens. Donc je vous ai parlé du bisphénol A, des phtalates, des dioxines. Ceux-là, on sait qu'ils sont beaucoup utilisés dans les plastiques et on sait qu'ils ont des effets sur la croissance, sur le développement, sur la glycémie, l'homéostasie, la pression artérielle. Vous savez, en fait, dès qu'on touche aux hormones, c'est vraiment un gros bazar dans nos organismes, que ce soit les organismes humains ou animaux, en fait, c'est la même chose. Ça, c'est les choses qui sont les plus connues. Maintenant, dans cette exploration bio, ce qu'on veut, en fait, c'est de pas seulement regarder les perturbateurs endocriniens, c'est une priorité pour nous, mais aussi regarder le mélange qu'il va y avoir avec des PCB, des métaux lourds, des pesticides qui sont aussi accumulés en fait dans les plastiques.
Vous mentionniez l'impact que ces microplastiques et additifs peuvent avoir sur la faune et la flore marine. Est-ce qu'on sait quelles sont les espèces qui sont les plus sensibles à cela ?
Alors ça, c'est une question très intéressante. Souvent, on se dit, mais est-ce qu'on a une perte de biodiversité à cause des plastiques ? Et en fait, non. C'est pas, les plastiques ne vont pas s'attaquer à un animal en particulier. Évidemment, on a tous vu les images de tortues qui se trompent en fait avec les plastiques parce qu'ils pensent que c'est des méduses. On a plus de 14 000 mammifères par an en fait, hein, qui meurent à cause du plastique. Et ça, on a vu des cachalots remplis avec 6 kilos de plastique à l'intérieur, des baleines de cuvier avec 40 kilos de plastique dans leur estomac. Les oiseaux marins en fait sont beaucoup touchés aussi, mais en fait c'est pas une espèce en particulier. Malheureusement, les plastiques vont toucher toutes les espèces, et donc on va pas avoir une perte de biodiversité. Par contre, on va avoir un impact en fait sur toutes les espèces qui sont dans le milieu marin. Et ça, aujourd'hui, on en est sûr. En fait, il y a de toutes les études qu'on voit passer aujourd'hui, très rares sont celles qui disent qu'il n'y a pas d'effet sur leurs organismes. La plupart des études montrent que, en fait, sur leurs organismes modèles, il y a vraiment des effets.
Et on connaît les principaux risques, les principaux effets justement qu'elles encourent.
On peut avoir pour certains organismes. Simplement de l'étranglement, par exemple. Donc ça arrive avec les filets de pêche, hein, qui représentent quand même 10% des déchets en mer et qui sont par exemple, on a fait des calculs, on s'est rendu compte que on arrivait à perdre 2 à 3% des stocks de merlus à cause de ces filets de pêche. La mortalité, elle se passe beaucoup aussi par l'ingestion, en fait. Ce qu'on a vu en Méditerranée, c'est que comme je vous ai dit, c'est une des mers les plus polluées au monde, et on a à peu près autant de petits microplastiques là que de zooplancton qui sont la base de la chaîne alimentaire. Donc ça veut dire que dans certaines zones de la Méditerranée, à midi, au repas du poisson, en fait, dans son assiette, il y a moitié de plastique, moitié de zooplancton. Donc là, à force de manger du plastique, il va avoir en fait une obstruction en fait de son estomac, et ça va l'empêcher de se nourrir. Donc ça, c'est vraiment les choses les plus connues qu'on a sur lesquelles on a travaillé au départ. Ensuite, maintenant, on travaille beaucoup plus sur cette accumulation d'additifs qui sont des effets toxiques. Et là, c'est plus pernicieux. C'est pas la mort directe, en fait. On va avoir un problème de développement, des problèmes de sexualité à cause de ces additifs, des problèmes de métabolisme, etc., qui font en fait que c'est plus pernicieux, mais à force, en fait, ça va apporter des maladies et la mort également. Donc, on est vraiment à plusieurs niveaux avec ces questions des plastiques. Et je vous avoue que c'est pas forcément facile à répondre à toutes ces questions en parallèle.
Alors, il existe aussi une autre question liée à la présence de ces plastiques dans les océans, c'est le transport des espèces, hein, c'est-à-dire que ces plastiques dérivent dans les océans sur des milliers de kilomètres et peuvent transporter, en fait, des espèces pathogènes de continent en continent. Hein.
Alors, dans le programme Exploration Bleue, et vous faites bien de le mentionner parce que c'était la dernière partie que j'avais pas encore parlé. Effectivement, les plastiques, ils sont pas seulement dans les gyres, ils sont pas seulement en Méditerranée, on va les retrouver partout, comme je vous l'ai dit. Et en fait, ils vont se balader pendant longtemps, parce qu'un plastique, c'est plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'années de vie. Et donc, ils vont balader sur leur dos, en fait, plein de micro-organismes. Alors, on sait qu'à partir du moment où on met un plastique neuf dans l'environnement, il va être tout de suite colonisé par ces micro-organismes. Et ça, c'est normal, en fait. Quoi qu'il arrive dans l'environnement, les bactéries, des petits champignons, en fait, vont se développer pour se cacher, en fait, sur ces petits radeaux. Parmi ces plastiques, on a pu noter en Méditerranée, sur un morceau de plastique en particulier dont je me souviens, on avait jusqu'à 20 à 25% des espèces microbiennes qui étaient sur ce plastique qui étaient potentiellement pathogènes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire potentiellement pathogène? C'est-à-dire que on connaît leur nom, on a entendu parler des Vibrio cholera, vous savez, les staphylocoques, les Escherichia coli, et les choses comme ça qui transmettent des maladies. Donc, ces petites bactéries, elles peuvent être bonnes et elles peuvent être mauvaises pour les animaux. Donc là, c'est le cas où elles sont mauvaises. Et ce qu'elles font, en fait, c'est qu'elles vont, si elles sont ingérées, si elles sont présentes sur plastique, elles sont ingérées par un animal, en fait, bah, elle va transmettre la maladie qui lui-même, l'animal, par ses fesses qui vont être mangées ensuite, vont transmettre les maladies à ses congénères. Donc aujourd'hui, on est en train d'étudier et d'essayer de comprendre, savoir si ces bactéries qu'on a retrouvées sur le plastique sont vraiment pathogènes. Est-ce qu'elles sont pathogènes, en fait, là, dans notre travail, on va travailler surtout sur la pathogénicité chez les poissons, chez les organismes marins. Mais il a été montré par ailleurs, en fait, qu'elles étaient capables de transporter par les aérosols des pathogènes humains. Voilà. Donc, nous, notre objectif, c'est vraiment de travailler sur les micro-organismes pathogènes dans le milieu marin.
Alors, Jean-François Guiglion, ça fait une dizaine d'années, hein, je pense, que vous travaillez sur ces plastiques. Comment est-ce qu'a évolué la recherche dans ce domaine depuis? Est-ce qu'il y a eu des idées surprises aussi?
Alors, elle a explosé, la recherche, ces dernières années. En fait, heureusement, grâce aux premières expéditions scientifiques, notamment grâce à Expédition 7e Continent, mais d'autres ONG ont mis l'accent, en fait, et des scientifiques ont mis l'accent et ont vraiment parlé de cette pollution plastique, y compris vers le grand public. Et aujourd'hui, quand on pose la question à des enfants, quel est le problème environnemental majeur, le premier, c'est, ils nous citent tous le changement climatique, et le deuxième, c'est le plastique. Donc, quelque part, on peut se dire que le grand public maintenant est au courant de cette pollution plastique. Maintenant, il a fallu globalement essayer d'aller vers des solutions. Et là, les scientifiques ont un rôle à jouer parce qu'on a quand même été les inventeurs du plastique aussi. Donc maintenant, il va falloir qu'on trouve les solutions à ce plastique. Et on a réfléchi beaucoup et c'est beaucoup là-dessus, en fait. Actuellement, il y a un traité mondial qui est en train de se mettre en place contre cette pollution plastique, où les scientifiques ont leur part et des choses à dire, en fait. Et aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que on a essayé de mettre en place différentes choses. Donc, on a essayé de mettre en place une super collecte avec un super recyclage, et on se rend compte que ça, c'est des choses qui ne fonctionnent pas suffisamment. Les plastiques biodégradables également, c'est des choses qui sont intéressantes, mais qui ne fonctionnent pas suffisamment, puisque nous, on continue à donner l'alerte sur le fait que la pollution plastique n'arrête pas de continuer. Donc, notre rôle de scientifique, c'est vraiment un rôle de donneur d'alerte, de dire: malgré ça, en fait, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. On continue à avoir beaucoup, beaucoup de plastique. Aujourd'hui, notre message majeur, c'est de dire, il faut absolument réduire la production mondiale du plastique. Depuis l'année dernière, on a passé les 400 millions de tonnes de plastique produits par an, et ça n'arrête pas d'augmenter. Il faut absolument réduire cette production mondiale de plastique parce qu'on n'arrive pas à gérer nos déchets. Et le plastique, c'est vraiment une démonstration qu'on n'arrive pas à gérer nos déchets correctement.
Ouais, on peut le rappeler, hein, c'est le troisième matériau le plus produit au monde après l'acier et le ciment. Jean-François Guillon, peut-être une dernière question. Est-ce que, justement, il y a des pistes, vous parliez de solutions, est-ce qu'il y a des pistes pour, justement, un peu éliminer la présence de ces microplastiques dans les océans? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable?
Alors, c'est tout à fait envisageable. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va retrouver quand on est en mer ou quand on va sur les berges des fleuves ou partout, en fait? Ce qu'on retrouve, c'est les emballages et les plastiques à usage unique. Notre combat aujourd'hui, c'est d'enlever ces emballages et ces plastiques à usage unique. L'Europe a décidé d'ici 2040 d'arrêter les emballages. C'est très bien, mais ça va être trop tard. C'est dans très longtemps, donc ça c'est reporté, en fait, vers le citoyen qui doit essayer de consommer un minimum de ces emballages. Il faut absolument réduire ces emballages parce que dans la production mondiale de plastique aujourd'hui, je vous ai parlé des 400 millions de tonnes qui sont produits par an, il y a 40% qui est fait pour l'emballage. Donc si on enlève l'emballage, on arrive déjà à enlever 40% du problème. C'est pour ça qu'on est actuellement, en fait, les scientifiques sont en train de dire qu'il faudrait réduire jusqu'à arriver d'ici 2040 à 200 millions de tonnes au lieu des 400 millions de tonnes par an de production de plastique aujourd'hui. Voilà. La direction, elle est essentiellement là-dessus. Réduire la production et réduire la consommation.
Merci beaucoup, Jean-François Guiglione.
Merci.
Alors, je rappelle, vous êtes directeur de recherche CNRS et membre de l'Exploration Bleue, dont on mettra le site sur le lien du podcast sur radio.be et radio.fr. Encore merci.